bénissons Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait.
Dans nos prières tout à l'heure, nous avons remercié le Seigneur pour sa grâce sur nos enfants. Et je voudrais aussi bénir les parents. Nous, parents chrétiens, nous avons cette grâce pour ceux à qui Dieu fait grâce, parce que avoir des enfants, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Parce que certains couples sont dans cette situation où ils n'ont pas d'enfants. Et ce n'est pas une malédiction non plus. Et tous ceux qui sont des parents, c'est une grâce. Et cette grâce appelle aussi une responsabilité. C'est de faire en sorte que le plus gros, le plus grand, le plus majestueux des trésors, que nous puissions le léguer à nos enfants. Leur apprendre que Dieu existe, qu'il est réel, et que ce qu'il désire, c'est d'être en relation avec les hommes et les femmes pour leur montrer le chemin de la vie tout court, mais aussi le chemin de la vie éternelle. Et c'est un travail qui n'est pas simple. Déjà, éduquer n'est pas simple. Aujourd'hui, nous sommes parents et nous pouvons comprendre toute la délicatesse, toute la responsabilité que nos parents avaient sur nous-mêmes. Certaines choses que nous ne comprenions pas, nous commençons à les comprendre parce que nous sommes parents nous-mêmes aujourd'hui. Que Dieu bénisse donc tous ceux qui sont parents, qui ont accompagné leurs enfants, qui les ont chéris, qui les ont encouragés et qui leur ont fait découvrir la foi. Je voudrais aussi bénir l'Église de Dieu. Parce que beaucoup de jeunes, en tout cas c'est mon cas à moi, nous ne sommes pas nés dans des familles chrétiennes. Dieu a mis des gens sur notre chemin, il a mis une église sur notre chemin, et cette église nous a montré la foi. Que Dieu bénisse aussi tous ceux de l'église de Créteil qui sont engagés dans ce travail de prière, de prédication, d'accompagnement. Ce que nous voyons aujourd'hui, ces jeunes que vous voyez, sont le fruit non seulement de l'investissement de leurs parents à la maison, à leur côté, l'investissement aussi d'une église, l'église de Créteil, au travers de l'école du dimanche. Plusieurs qui étaient là ont fait cette école du dimanche, toutes ces monitrices qui les ont accompagnées toutes ces années. Et puis depuis 4 ans aussi, cette proximité que nous avons mis avec les jeunes dans ce cours de croissance chrétienne. D'être avec eux, leur montrer la parole de Dieu, leur montrer le chemin pour qu'eux-mêmes décident de leur engagement avec Dieu. Un frère qui a prié ce matin l'a dit, c'est la seule chose que nous ne pouvons pas léguer, la foi. Nous pouvons leur apprendre le chemin de Dieu, mais c'est à eux de faire leur choix, de s'engager avec Dieu. Et nous avons, au travers ces 4 années, tracé des lignes avec eux, enseigné la parole de Dieu, prié avec eux. Beaucoup de fois, nous avons eu des entretiens individuels avec eux pour être plus proches, mais leur montrer que Dieu les aime. Et nous sommes particulièrement contents ce matin de voir que la plupart de nos jeunes sont debout et commencent à servir leur Dieu. Que Dieu bénisse cette jeunesse, que Dieu bénisse ce commencement. La Bible dit que ce qui est bien dans une chose, ce n'est pas son commencement, c'est qu'elle se termine aussi bien. Et vous avez encore la vie devant vous. Le chemin ne fait que commencer. Et pour cela, j'aimerais redire la deuxième partie d'un test que nous avons commencé à voir, les 8 qualités d'un chrétien. Et je crois que pour nos jeunes, mais aussi pour nous, c'est bien de revisiter ces béatitudes. En fait, je l'ai déjà dit dans l'introduction le 6 mars dernier, ces béatitudes sont vraiment les caractéristiques que Jésus donne très tôt pour ceux qui veulent aller loin avec lui. C'est un style de vie. Et Jésus l'annonce très tôt. Je l'ai déjà dit, ces béatitudes ne peuvent être efficaces que si nous avons fait la paix avec Dieu. La Bible dit que nous étions tous pécheurs, Romains 3, 23, qu'aucun de nous ne pouvait, aucun de nous, quelles que soient les bonnes œuvres que nous pouvions avoir, nous étions tous éloignés de Dieu. Le péché, le mal qui est rentré dans le monde, en Adam et Ève, nous a séparés du Seigneur. Et Dieu n'a cessé de mettre des solutions pour nous rapprocher de lui. Et la solution que la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, bien avant la fondation du monde, il avait déjà pris l'engagement de payer le prix de notre salut en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, rentre dans le monde, comme il est dit dans l'Évangile de Jean, parce que nous faisons partie de sa famille, parce que l'homme est sa création. Jésus vient dans le monde pour apporter cette solution au péché. Il donne sa vie, car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché coûte la vie. Et c'est pour ça que pédagogiquement, dans l'Ancien Testament, le péché appelait un sacrifice d'animal. On égorgeait un animal pour montrer que le péché coûte la vie de quelqu'un, en l'occurrence d'un animal. Mais ce sacrifice d'animal ne pouvait pas racheter la profondeur du péché. Il fallait malheureusement un sacrifice autre. Et Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. Il a montré avec Abraham, lorsqu'il a mis la foi d'Abraham à l'épreuve, en lui disant, tu vas m'offrir un sacrifice. Je t'ai donné cet enfant, Isaac, tu vas maintenant me l'offrir par un holocauste. C'est un mot qui est chargé de sens, parce que ce mot a été dévoyé par le régime nazi d'Hitler. Hitler, pendant qu'il gazait les Juifs, l'a appelé holocauste. Alors que l'holocauste, c'est un sacrifice agréable, d'une bonne odeur, qui monte à Dieu. Où la victime animale est consumée tout entièrement pour montrer à Dieu que la vie coûte cher, mais qu'on lui donne sa vie. Et Hitler a dévoyé ce mot lors de l'Holocauste, selon lui. Devant ce sacrifice que Dieu a demandé à Abraham, Dieu l'a mis juste à l'épreuve, parce qu'au moment où Abraham allait passer à l'acte en sacrifiant Isaac, Dieu lui a dit, je ne suis pas comme Moloch. Le dieu Moloch, c'est le dieu qui acceptait les sacrifices humains. Il dit, je ne suis pas Moloch, je n'accepte pas les sacrifices humains du tout. Regarde là, j'ai préparé un bélier. Prends-le et c'est ce bélier que tu m'offriras. J'ai compris que tu m'aimes au point d'être prêt à sacrifier ton fils, mais je ne suis pas de ce dieu-là. Et Dieu, pédagogiquement, va faire ce qu'il a refusé à Abraham de faire. Lui, il va donner son fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Son fils, l'unique. Pour qu'en Jésus-Christ, le péché soit payé. La Bible dit que notre péché a coûté un prix qu'on ne peut pas estimer. Parce qu'une vie humaine n'a pas de prix. Encore plus, la vie du Fils de Dieu. Jésus donc donne sa vie à celui qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit, tu n'as aucun pouvoir que celui qui t'a été donné. C'est pour cette heure que je suis venu. Je suis venu donner la vie pour ceux que j'aime. La mort de Jésus-Christ doit nous interpeller tous. C'est une mort sacrificielle. Il n'est pas suicidaire, mais il fallait qu'il passe par là. C'est ce qu'il a dit à chaque fois aux disciples, aux apôtres. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Jésus donc donne sa vie. Je fais cette introduction longue pour vous faire comprendre que Jésus dira dans l'évangile de Luc chapitre 4 que le royaume des cieux s'est approché. Dans le sacrifice de Jésus, Dieu rétablit son alliance avec les êtres humains. Cette alliance, elle passe que par le Fils de Dieu. Et une fois que le Fils de Dieu est rentré dans le monde, il nous dit maintenant que si nous sommes des chrétiens, voilà ce que nous devons vivre. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Vas-y, s'il te plaît. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jusque-là, la parole de Dieu. Je vous avais aussi indiqué que cette béatitude, ce texte, pouvait aussi se subdiviser en deux parties. Les quatre premières béatitudes parlent de cette relation avec Dieu. Et les quatre autres béatitudes parlent de la relation envers son prochain. Car l'apôtre Jean rappellera que qui dit « aime Dieu » ne peut pas haïr son prochain. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Et Jésus établit ça très tôt dans cette béatitude-là. Il établit ces deux entités de cette béatitude. Je vais revenir sur la dernière béatitude que j'avais développée dans la prédication du 6 mars. Ceux qui ont faim et soif de justice. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons être des gens épris de justice. La faim et la soif de la justice correspondent à des désirs saints. Dieu s'engage à combler le cœur de ceux qui ont de tels besoins de faim, de soif, de justice. C'est un encouragement pour que le chrétien laisse son cœur être ardemment touché par toutes les questions d'injustice. A déjà commencé par aimer profondément la parole de Dieu, car sa parole est une parole de justice, et c'est la parole juste et les commandements justes. Et le psaume 37 le dit si bien, hein, « Fais de l'Éternel tes désirs, de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. » Et c'est un psaume avec celui du 119 qui montre et qui invite le chrétien à aimer les justes commandements de Dieu. Si vous êtes jeune, comme vous l'avez chanté dans ce chant qui disait que le Saint-Esprit envahisse votre cœur, demandez à Dieu d'aimer sa parole, d'aimer ses justes commandements, d'être assoiffé. Le psaume 37 commence en disant « comme une biche a soif et qu'elle va vers un courant d'eau », le chrétien doit être aussi encouragé dans ce sens. Je réalise que très peu de chrétiens, et moi avec, quand nous introduisons nos prières, je réalise que nous invoquons très peu le Dieu de justice et de paix. Nous invoquons beaucoup le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, mais nous invoquons très peu le Dieu de justice et de paix. Dieu est un Dieu juste. Vas-y, s'il te plaît. La justice sociale, c'est la manière impartiale et équitable de traiter tous les peuples. La justice exige l'équité, l'impartialité. Une méthode convenable est la base sur laquelle une société responsable se construit. En l'absence de justice sociale, le faible, le vulnérable, la personne sans défense, la personne sans voix est exploitée, opprimée, privée de toute expression. L'absence de justice sociale est la racine de toute discrimination, oppression, dépravation, violence et de guerre dans la société. Dieu est un Dieu de justice, de droiture. Il est donc très soucieux de la justice dans le monde, selon le psaume 98. Comme le montre aussi l'un des textes majeurs du monde évangélique international qui s'appelle la déclaration de Highlight en 1980, il est écrit: la situation actuelle de l'injustice sociale est tellement aberration, est une telle aberration à Dieu qu'un grand changement est nécessaire. Nous ne pouvons pas être indifférents aux questions de justice. Le chrétien doit être motivé dans son cœur par cette soif, par cette faim d'être juste dans toute sa relation avec son Dieu d'abord, mais aussi avec son prochain. Parfois, on a dissocié la justice de la mission. Vas-y. La mission, c'est toute œuvre de Dieu que le peuple de Dieu est envoyé à faire dans le monde. Cela comprend s'occuper des pauvres, des étrangers, des personnes privées de leurs droits, des veuves, des orphelins, des personnes que personne ne veut défendre et les plus vulnérables. Cela signifie aussi lutter contre les principautés et les puissances, renoncer au mal et à l'oppression, annoncer la bonne nouvelle de la liberté et de la délivrance de tout esclavage dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Selon Luc chapitre 4, verset 18. Tous les chrétiens sont appelés par Christ à s'engager dans la mission de Dieu à travers le soutien et la puissance de son Saint-Esprit. Les grandes causes de notre humanité, en tout cas, dans ces siècles derniers, ont été portées beaucoup de fois par les chrétiens. L'abolition de l'esclavage, c'était un chrétien député anglais qui a porté cette loi-là. Sans parler de tous ceux dont l'histoire retient le nom. Martin Luther King Jr. et tous les autres. Nous ne serons pas forcément de ces gens-là. Ce n'est pas ça le but. Le but ici, c'est qu'un chrétien, il doit être épris de justice. Épris de justice. Dans sa relation avec son Dieu, Dieu est juste. Il doit lui-même être juste comme son Père. Dans sa relation familiale, il doit chercher à être juste dans sa relation au sein de sa famille. Il doit chercher à être juste là où il va à l'école. Il doit chercher à être juste là où il va au travail. Il doit chercher à être juste là où il vit. Et ça, Dieu, dans sa grâce, nous l'accorde par son Saint-Esprit. Et nous pouvons vraiment lui demander de faire cela. C'est pour cela que nous devons comprendre que la relation à Dieu est toujours intimement liée à la relation avec le prochain. C'est dans cette même pensée, comme je le disais tout à l'heure, que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Et sa sœur. C'est des questions profondes, des questions de justice. Être juste, parfois ça coûte d'être juste. Mais être juste, c'est être comme notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Et nous sommes invités à être justes comme notre Père. Et cette justice va de pair avec toutes les relations sociétales. C'est pour cela qu'on est toujours frappé par quelqu'un comme Martin Luther King Jr. Alors qu'il vivait ces moments difficiles, il a toujours encouragé le peuple noir à ne pas être l'ennemi du peuple blanc. Il dit « Nous sommes tous des Américains ». Et ça a été son combat. Et il a dit une phrase qui est restée célèbre, « Si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères et sœurs, alors nous mourrons ensemble comme des imbéciles. » On lui a fait ce reproche, et pourtant nous sommes mis à côté, nos femmes sont maltraitées, nos enfants aussi. Il dit celui qui est rentré dans ma vie, qui s'appelle Jésus-Christ, celui qui m'a appelé être pasteur baptiste, il a deux notions fortes. C'est la notion du shalom. Le shalom, c'est la justice et la paix, être juste. Il a souvent dit, ce ne sont pas les blancs qui sont le problème des États-Unis, c'est la loi. Et s'il y a quelqu'un contre qui il faut lutter, c'est contre la loi, pour que la loi elle change. Pas contre ton frère blanc que tu vois en face de toi. Ça lui a coûté. Être juste, ça se travaille profondément. Parce que parfois, à cause de nos filiations, de nos liens,
on est tout de suite dans l'impartialité. Non, dans la partialité. Parce que le lien que j'ai avec quelqu'un me donne tout de suite de prendre fait et cause pour lui. Sans me poser la question, est-ce que ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit est juste? Et c'est ce qu'il a reproché aussi aux blancs, chrétiens blancs des États-Unis. Il dit, ce qui me marque le plus, ce n'est pas la méchanceté d'un méchant. Le méchant, de toutes les façons, il est méchant. C'est l'indifférence de tous ceux qui se disent justes et qui savent que ce qui se passe n'est pas juste et qui ne disent rien et qui ne font rien. Que Dieu nous aide. Vous qui êtes nos jeunes, grandissez dans cette force de Dieu. Soyez des jeunes gens, des jeunes femmes justes. Demandez au Saint-Esprit de faire de vous des gens comme ça. Les quatre dernières béatitudes, la relation de Dieu envers son prochain, et cette béatitude, la quatrième, ouvre cette voie dans leur relation avec le prochain. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Et de conclure avec les versets 11 et 12, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les miséricordieux. Vas-y. La miséricorde devant Dieu, tu peux aller à l'autre slide, se rapporte à la souffrance, à la misère, à la détresse. C'est avoir compassion envers ceux qui sont dans de tels besoins. Le fruit de la miséricorde, c'est de soulager, d'apporter secours et guérison à ceux qui sont dans de telles situations. Ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une réponse pratique à un besoin. Vous savez, la différence entre la miséricorde et la pitié, c'est un sentiment qui peut nous laisser sans action. Je peux avoir pitié de quelqu'un, c'est un sentiment noble, mais ça ne me pousse pas toujours à l'action. Alors que la miséricorde, c'est une prise de conscience que quelqu'un vit une situation particulière et qui me pousse à faire quelque chose à mon humble niveau. On dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais au moins on peut donner ce qu'on a. Si devant des situations, je ne peux pas faire grand-chose, je peux au moins les marquer quelque part et prier régulièrement pour ça. Si on ne peut pas prier déjà pour ça, on est déjà en défaut de quelque chose. Il y a des situations où tu vois que tu veux faire quelque chose, mais tu ne peux pas. Parce que ça te dépasse, parce que tu n'as pas les compétences ni les moyens pour agir. Mais en même temps, ce n'est pas toujours vrai. Parce que le chrétien, le premier moyen qu'il a, c'est la prière. Si le chrétien n'est pas convaincu que sa prière peut agir, il y a quelque chose qui cloche. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité, s'il prie avec conviction. Il ne faut pas confondre s'engager dans la prière et voir la réponse de sa prière. La réponse de la prière appartient à Dieu. Mais s'engager de façon convaincante dans la prière, ça c'est notre part. La part de Dieu, c'est de répondre. Dieu n'est pas à notre service. Quelquefois, quand je réfléchis à qui est Dieu, j'ai peur. Je dois l'avouer. Parce que Dieu, quand je regarde l'univers est immense. Et on dit qu'il a créé l'univers. Ça veut dire qu'il est tellement, tellement immense, tellement grand. Quand je regarde l'intelligence avec laquelle les hommes sont capables de produire du beau et du bien, et on dit que c'est lui qui a donné cette intelligence, donc il a produit encore un bien et un beau plus immense que ce que nous sommes capables de faire, J'ai dit, waouh, et c'est ce Dieu-là qui est mon Père. Et là, ça me rentre, non pas dans la crainte, mais dans la reconnaissance. Parce que là, je me dis, franchement, si c'est celui-là qui est mon Père, quel privilège! Quel privilège! Et la Bible dit qu'il nous connaît chacun par nos noms. Aujourd'hui, les statistiques disent que nous sommes 7 milliards d'habitants. Dieu connaît les 7 milliards par nos noms. Oh. Il dit, aucun brin de tes cheveux ne tombe sans que Dieu ne le sache. Parce qu'il connaît le nombre exact du brin des cheveux que tu as sur la tête. Le prophète a dit, bien avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et quand j'étais un fœtus, tu me connaissais aussi. Ce Dieu est un Dieu de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il nous prend en compassion. Dieu est miséricordieux. Et c'est pour cela que dans la détresse d'Israël, le prophète Jérémie, lorsqu'il était en lamentation et qu'il se disait, mais Seigneur, Seigneur, regarde ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Et Dieu lui a parlé. Et il écrit dans le chapitre 3, car les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour ceux qui s'attendent à lui. Car Dieu est miséricordieux. Dieu nous connaît, il connaît nos détresses, il connaît nos situations de souffrance, de misère, et il n'est jamais sans action, jamais sans action. Il agit toujours dans notre misère, dans notre détresse et dans notre souffrance. Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, dit, comme il a souffert, quand l'un de nous souffre, il sait ce que c'est que la souffrance. Parce que Christ a souffert. Puis, il a souffert de la mort de la croix. Cette mort atroce. Nous pouvons être confiants que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et il dit que ceux qui sont comme lui, qui sont ses enfants, doivent aussi avoir dans leur qualité, doivent être des femmes et des hommes de miséricorde. La miséricorde nous invite à exercer plus souvent le pardon. C'est ça la miséricorde. Donner son pardon. En Christ, Dieu n'est pas resté lointain et insensible. Il a partagé nos souffrances et est entré dans notre sphère en apportant une solution à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Lorsque nous expérimentons, nous exerçons la miséricorde envers autrui, d'autres l'exercent aussi envers nous. Et Dieu lui-même, qui nous a fait miséricorde, fera encore plus pour nous. C'est pour ça que le texte dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et dans l'évangile de Luc dira, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Vous savez, dans la vie, aucun de nous n'est à l'abri d'une épreuve, d'une détresse, d'une situation. Que Dieu vous aide, vous nos jeunes, à être des jeunes femmes, des jeunes gens qui grandissaient avec ce cœur, toujours sensible à la situation des autres. Cette sensibilité qui montre l'amour de Dieu dans le monde. Qui manifeste l'amour de Dieu. Souvent, je m'assois, je me dis, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui manifestent une miséricorde incroyable. C'est la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas des chrétiens, et pourtant, ils ont fait des actions tellement belles pour les autres. Ça met la barre haute pour nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes encore appelés à faire plus. Pas forcément pour avoir une renommée, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais dans les sphères là où nous sommes, qu'elles soient petites ou grandes, soyons des femmes et des hommes de miséricorde. Et c'est pour cela que par la suite, il va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur ici, c'est la différence entre la pureté extérieure et la pureté intérieure. C'est ce que Jésus va beaucoup reprocher aux soi-disant hommes religieux de son époque, les pharisiens, les scribes. Dans Matthieu, au chapitre 24, là où il va articuler dans le mauvais sens du terme, ce qu'il a fait dans les béatitudes, malheur à vous, pharisiens, et scribes, hypocrites. Parce qu'ils avaient ils étaient un peu comme des schizophrènes. Dans le sens où devant tout le monde, ils paraissaient des hommes religieux, mais qu'au fond d'eux, ils étaient autre chose. Jésus va même les assimiler à des tombeaux blanchis. Parfois, Jésus prend des images chocs pour apporter un électrochoc.
On aime les gens qui sont décédés, puisqu'on a des liens forts avec eux. Mais il dit, un tombeau, aussi beau soit-il, ce qu'il y a dedans, ce sont des ossements. Parce que de toutes les façons, l'âme de la personne n'est plus là. L'âme de la personne, si elle était chrétienne, si elle était avec Jésus, elle est au ciel avec Dieu. Si elle n'était pas avec Jésus. C'est la tristesse. Mais il dit que ces pharisiens, ces scribes étaient comme ces tombeaux. À l'extérieur, c'est beau, avec des belles sculptures, du marbre et tout ça. Mais à l'intérieur, il n'y a pas cette beauté-là. Ceux qui sont purs de cœur, c'est ceux qui sont transparents, qui sont entiers. C'est ceux qui sont sincères. C'est un trait du caractère du chrétien dans sa vie entière, qu'elle soit publique ou privée, c'est une vie transparente devant Dieu d'abord et devant les hommes. Ses motivations sont pures, sans bassesse, sans hypocrisie, sans tromperie. Ça ne veut pas dire que je dois dire tout ce que je suis à tout le monde, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que je dois être moi-même, quelles que soient les situations là où je suis. Je ne dois pas être un hypocrite, je ne dois pas avoir des motivations. Comme on dit, il ne faut pas être un chrétien du dimanche. Le dimanche, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est merveilleux. Et puis en semaine, oh, je me souviens, j'étais jeune chrétien, et puis il y a des personnes, on était en résidence universitaire au campus, et puis je ne sais plus si c'était les parents de la jeune fille qui était venue la chercher, qui ne savait pas où était sa chambre. Au campus, ils ont commencé à demander des indications pour trouver la chambre de cette jeune femme. L'un des indices qu'il donnait, il disait, c'est une chrétienne. Et les autres étudiants disaient, mais quel est son prénom? Et quand ils ont donné le prénom de cette jeune fille, l'année dans laquelle elle était, la faculté dans laquelle elle était, la majorité des étudiants qu'ils croisaient sur le chemin pour leur indiquer la chambre de cette jeune fille, disaient, vous êtes sûr que c'est une chrétienne? Parce qu'elle avait un mauvais caractère sur le campus. Elle était connue pour être quelqu'un de pas sympa du tout. Du coup, à l'église, elle avait le cœur pur, mais dans la vie de tous les jours, c'était une autre personne. Le chrétien n'est pas ainsi. Le chrétien doit laisser son cœur transformé à l'intérieur pour que l'extérieur manifeste ce qu'il est. C'est pour ça que Jésus dira que ce n'est pas de l'extérieur que vient la souillure. La souillure vient de ce qui est dedans de vous. C'est au dedans que vient la souillure. Ok. Que Dieu nous aide. Parce que si nos cœurs sont purs, nous verrons Dieu. C'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Un cœur pur, c'est un cœur sanctifié. Un cœur qui marche selon la parole de Dieu. Où qu'il se trouve, avec ou sans le regard de d'autres chrétiens sur lui. Et si nos cœurs sont purs, nous sommes invités alors à être de ceux qui procurent la paix. Car si nous voyons Dieu, si nous sommes dans la présence de Dieu, si nous allons être dans la présence de Dieu, ça veut dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu, des artisans de paix. Chaque chrétien est appelé à être un artisan, un ouvrier de paix, à la fois dans l'église et dans la société. Les disciples de Jésus que nous sommes, nous devrions ne pas être dans ce cas de figure. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui recherche les conflits. Il ne doit pas être à la base des conflits. Mais au contraire, quand il y a un conflit, il doit être un agent de paix, un médiateur. Dans la mesure où cela dépend de lui, il doit vivre en paix avec tous, selon 1 Pierre 3, versets 8 à 12, selon le psaume 34. Nous devons demander cette force à Dieu. L'artisan, c'est celui qui travaille de ses mains. Celui qui ne compte pas les heures qu'il met à faire une œuvre manufacturière avec ses mains. Et le chrétien, nous qui sommes des chrétiens, nous devrions, enfin, nous sommes, puisque Jésus, dans cette béatitude, dit c'est un état déjà qui est là. C'est pas un état à venir. Nous sommes déjà, parce que nous avons reçu Christ dans nos cœurs, nous sommes potentiellement déjà des hommes et des femmes capables d'être des artisans de paix. Chaque fois qu'un disciple de Jésus annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle, il fait une œuvre de paix parce qu'il réconcilie les hommes avec Dieu.
l'Église, les chrétiens, agissent en artisans de paix. Et ainsi, nous nous conduisons comme des fils et des filles de Dieu. Parce que Dieu est celui qui réconcilie le monde avec lui. Dieu est un Dieu de paix, ce n'est pas un Dieu de guerre. Et c'est là aussi que je fais cette autre observation que j'ai faite tout à l'heure. Dans nos invocations de Dieu, on invoque très peu le Dieu de paix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la guerre est à 2000 km à peine de chez nous. 2000 km. L'Ukraine, c'est 2000 km d'ici. Ce qui doit nous interpeller, ce n'est pas ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est déjà là. C'est quelles leçons nous en tirons, nous les chrétiens. Qu'est-ce que ça va changer dans nos façons de vivre? Qu'est-ce que ça va induire? Vous qui êtes jeunes, quelle est la réflexion que vous faites quand vous voyez cette guerre? On peut jeter l'anathème sur tous les puissants qui font la guerre. La justice dira en son temps. Mais il me semble que nous qui sommes chrétiens, lorsque des événements comme ça arrivent, et ils vont arriver encore. Il y a eu déjà deux guerres mondiales. Entre la première et la deuxième, il y a eu à peine une génération. Ben oui, la première guerre mondiale est finie en 1918, la deuxième est finie en 1945. À peine 30 ans. Ça fait une génération, c'est 25 ans. En 25 ans, les hommes n'ont pas été capables de prendre les leçons de la première guerre, ils en ont fait une deuxième. L'homme n'apprendra jamais sans Dieu. L'homme n'apprendra jamais sans Dieu. Alors, quelle leçon ça nous donne, nous les chrétiens? Moi, il me semble que la première leçon, c'est de me dire pourquoi les gens, ils se battent. Et puis après, on entend tout ce qu'il y a comme argument. Et je me dis, ouais, mais nous aussi, on se bat dans nos familles. Dans nos couples, parfois, c'est tendu. Dans nos relations avec nos enfants, parfois, chacun tire. Et on n'en démord pas. Chacun suit sa raison. L'autre a tort. Moi, j'ai raison. On n'arrive pas à dénouer le nœud. Et on va donner des leçons là? J'en sais rien. Avant d'être un donneur de leçons, je veux demander à Dieu, aide-moi dans mon couple, dans ma famille, à être un artisan de paix. Aide-moi au cœur de mon église à être un artisan de paix. Aide-moi au cœur de l'immeuble où j'habite à être un artisan de paix. Aide-moi d'être un artisan de paix avec les parents d'élèves avec lesquels je travaille dans l'école de mes enfants. Aide-moi à être un artisan de paix là où je vis. Il me semble que c'est la première leçon que nous pouvons tirer. Si nous sommes tous là des artisans de paix, quand les situations comme ça arrivent, nous pouvons influer ce genre de situation-là. Et puis enfin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cette justice n'est pas la justice d'abord du monde, c'est la justice de Dieu. Nous sommes pris à partie parce que nous sommes des chrétiens, parce que parfois, nos lois justes de notre Dieu sont en contradiction avec certaines façons de vivre de notre monde. Et nous sommes persécutés. Nous sommes pris pour des conservateurs quand les gens sont gentils. Sinon, on est pris pour des hommes de caverne. Et nous sommes persécutés d'une certaine façon, puisqu'on ne veut pas nous entendre, puisque nos paroles sont traitées de paroles de ringard, de dépassées. Et vous qui êtes nos jeunes, vous avez cette pression-là, parce que parfois on veut vous imposer de vivre comme tout le monde, et quand vous dites, je suis un chrétien, on dit, oh là là, t'es jeune ma fille, t'es jeune ma chérie, t'es jeune mon gars, hein, faut pas, rentre pas dans des trucs de vieux, hein. C'est pas des trucs de vieux, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne changera jamais. Elle est la même. Les mêmes défis auxquels vos parents chrétiens ont fait face, ben vous allez faire face à ça. Ceux de mai 68, les chrétiens qui étaient là dans le mai 68, ont bien dégusté des choses, mais ils sont restés fidèles à leur éthique chrétienne. Ils n'ont pas démordu. Et c'est votre tour de rester fidèle à la parole de Dieu. Les tensions, les pressions, les opinions contraires, les styles de relations contraires qu'on nous annonce et qu'on veut dire qu'on est obligé de les accepter. Non, nous ne sommes pas obligés de les accepter. Parce que les autres ne sont pas obligés d'accepter notre foi non plus. Pourquoi moi, je devrais accepter quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? On va être persécuté pour cela. Encore, notre persécution, elle est douce. N'oubliez pas que dans certaines parties du monde, nos frères payent le prix fort de leur foi. Au péril de leur liberté, au péril même souvent de leur vie. Alors, ces petites contrariétés que nous vivons, disons à Dieu, donne-moi la force. Ma vie n'est pas encore en danger. C'est juste que des amis ne sont plus en accord avec moi parce que je ne pense pas comme eux. Donne-moi la force d'être fidèle et de rester pertinent dans cet engagement-là. Vas-y. Pour conclure, quand on donne cet enseignement sur les béatitudes, certains disent, ce n'est pas pour maintenant. Non, Jésus parlait dans un temps, dans le temps grec, qui est un temps présent. Quand il disait ça, il disait pas, c'est pour plus tard. Il dit, vous êtes déjà dans le royaume, car le royaume de Dieu est déjà là, et c'est ce que vous devez être. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Vivez comme des enfants de Dieu. Soyez des enfants de Dieu. Jésus attend de ses disciples qu'ils mettent cela en pratique. Cela doit être une référence permanente en matière de style de vie. Cette loi nouvelle s'applique à nous dans la mesure où nous sommes dans le royaume. Seuls ceux qui sont des chrétiens, touchés, transformés par Dieu, sont appelés à l'appliquer. Certes, on est régulièrement bousculé avec ce qu'on voit dans ce serment sur la montagne, parce que ça nous donne des choses qui ne sont pas toujours naturelles, ordinaires, pauvres en esprit. Être bon, être affligé du malheur qu'il y a dans le monde, être des gens qui ont faim et soif de la justice, être miséricordieux, être avec un cœur pur, être des artisans de paix, se positionner même devant les tensions contraires par rapport à la parole de Dieu, à l'éthique chrétienne, c'est pas simple. Mais c'est du bonheur, parce que c'est ça, être des enfants de Dieu, des femmes et des hommes de paix et de justice. Il dit, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, si la lumière n'existe plus. Donc Dieu nous donne cette mission, bien-aimés. Vous êtes jeunes, c'est vous la génération d'après. Le flambeau est en train de passer dans vos mains. Soyez fidèles. Et vous voyez, nous qui sommes vos aînés, nous avons tenu bon. Ceux qui étaient avant nous ont tenu aussi bon. Il n'y a pas de raison. En comptant sur le Saint-Esprit de Dieu, en vous engageant pour Dieu, en laissant Dieu vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, il ne vous abandonnera pas. Il ne vous lâchera pas. Au contraire, il est le Père qui veut prendre soin de vous, qui veut vous bénir. Il n'a pas des projets de malheur pour vous. Au contraire, il a des projets de bonheur. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Merci pasteur pour ce message. Donc comme il a dit, que nous soyons des ouvriers de paix, mais également un groupe d'amour, une église d'amour. Par rapport à ce groupe d'amour, je ne fais pas de soucis par rapport aux jeunes, puisqu'on s'aime beaucoup, mais je vous invite à continuer ainsi. En tout cas, c'est une grâce de Dieu que nous ayons en tout cas cet amour dans ce groupe. Pour finir,